Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
On accueille Stéphane White. Double mission pour Stéphane, alors qu'on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la Ligue américaine. Et évidemment, les séries qui se poursuivent, Ligue nationale. Salut, Steph.
Salut, mon chum. Comment ça va?
Ça va très, très bien, mon gars. Ça va très bien. Beau soleil, puis je suis de bonne humeur. Puis c'est le fun de voir ça, honnêtement. Tiens, je vais commencer par ça. Je commencerai pas par la Ligue nationale, parce que dans notre course, ce qui se passe, ce sont les séries du Rocket. Tu le sais, Steph, toi puis moi, on a vu le club école du Canadien dans le temps, Sherbrooke. Puis, tu sais, il y a eu des moments où c'était plein quand on gagnait la Coupe Calder. Mais es-tu surpris de voir qu'il y a autant de monde pour autant d'ambiance pour le Rocket à Laval, parce que ça ressemble à une méchante bonne décision d'avoir construit d'avoir ramené le club école. Tu sais, c'est pas tout le monde qui était convaincu que ça allait marcher. Là, tu vas me dire, c'est des séries, mais il y a de l'ambiance là, pas à peu près. Là.
Exactement. Premièrement, là, le Canadien a fait tout un job en construisant ce beau
le bel amphithéâtre.
Cette belle amphithéâtre. Je cherche le mot parce que je suis mêlé entre le complexe, le centre puis la place Belle.
C'est vrai que ça l'est un peu.
Oui, mais ils ont construit une très belle aréna qui peut pas être plus beau pour la Ligue américaine. Mais t'as raison, Mario, moi, ça me rappelle les années des Canadiens de Sherbrooke. Je viens de Sherbrooke et puis c'était des belles années. Quand ils étaient dans les séries, les années de Pierre Kramer puis les années de Pat Burns puis les Patrick Roy qui a eu des belles séries éliminatoires. Tout ça pour dire que quand ton club école est dans les séries, c'est tellement important pour ta relève. C'est tellement nous à Chicago, notre club était à Norfolk dans le temps ou à Rockford avant. Ils ont tout le temps joué dans les séries. Puis c'était tellement important pour l'organisation que ces gars-là jouent, connaissent l'expérience des séries. Et puis, ça n'a aucun prix.
Hey, j'ai un courriel qui vient d'entrer, là, puis je trouve que c'est vraiment bien la réflexion que l'auditeur me suggère en réaction au début d'émission, alors que j'ai parlé du Rocket. Je te le lis, Stéphane, puis on va poursuivre la conversation. Daniel qui nous écrit, concernant le Rocket, comme quoi il ne s'agit pas d'avoir une vedette pour attirer les amateurs. Qui est la vedette du Rocket? Par contre, j'entendais les spectateurs crier, scander le nom de Primo hier soir. Si Caden Primo peut passer l'année 22-23 à Laval, il deviendra la vedette du Rocket, que les spectateurs seront intéressés à aller voir jouer et plus tard à Montréal. Ainsi, le CF de Montréal n'a qu'à gagner avec un groupe de joueurs ordinaires sans vedette pour attirer les amateurs. Si le CF peut avoir une vedette, tant mieux, en autant que cette vedette ne nuise pas à l'esprit de la chimie d'équipe. Ça rejoint ce que je pense, que je dis souvent, mais en d'autres mots, mais t'es d'accord avec ça?
C'est un très bon commentaire. C'est exactement ça. Ce que le monde veut voir, c'est des gagnants. Et puis, une équipe qui gagne. Et puis, je me souviens, on vient encore au Canadien de Sherbrooke. Qui était le joueur que tout le monde a été conquis ici quand ils ont gagné la fameuse Coupe Calder? C'était Patrick Roy. Et puis, ça avait mis au monde Patrick Roy, cette fameuse Calder Cup-là. Et puis, je veux pas comparer Caden Primo à Patrick Roy, sauf que la plus belle affaire qui peut pas arriver comme pour un prospect comme Caden Primo, c'est de jouer dans les séries éliminatoires. Et puis, de mener son équipe à une série, gagner une série, peut-être deux, peut-être trois, on sait jamais. Mais ça, là, ça l'a pas de prix. Et puis, c'est ce qui a manqué à cette fameuse équipe-là depuis qu'ils sont à Laval. Ces gars-là, ils doivent jouer dans la série. C'est tellement important pour l'avenir de l'organisation que ces gars-là jouent comme les séries. Puis on parle, ils jouent contre Syracuse. Syracuse ont eu tellement de succès dans les dernières années. Puis ça, ça a aidé qui? Ça a aidé le Lightning, le gros club. Et puis Wilkes-Barre à Pittsburgh ont eu beaucoup de succès. Ça a aidé qui? Les Penguins de Pittsburgh. Donc ça, c'est énorme, ça, que ces gars-là fasse un bon bout dans les séries.
Et ouais, d'excellents commentaires. Puis tu as regardé la performance de Primo hier particulièrement. Qu'est-ce que tu en as pensé, Stéphane? Est-ce qu'il ressemble au gars en qui tu crois? Parce que il y a eu des doutes d'ailleurs. On n'a même pas, on lui a pas confié le filet pour l'amorcer la série. On a confié le filet à Kevin Poulin d'ailleurs.
Oui, je pense que c'est une bonne affaire parce que ça, ça enlève beaucoup de pression sur Kaden Primo. Il a dit, regarde, lui, là, sois prêt quand ce soit ton tour, puis quand ce soit ton tour, fais qu'est-ce que t'as à faire. Et puis ça, c'est, j'ai adoré Kaden, il est en contrôle. Et puis c'est, hier, je l'ai vu comme le gardien de but qu'on voit de nous autres depuis trois ans à Montréal qu'on voyait. Et puis, si ce gars-là est en confiance, il est gros, il est square, il est en contrôle. Et je te dis, ce gars-là peut être très dangereux pour l'adversaire. Et puis, j'ai adoré Kaden. Puis c'est exactement ce que ça y prend. C'est beaucoup de temps de glace, des parties sous pression. Et puis, ça, c'est le meilleur remède pour le développement d'un gardien de but. C'est de jouer dans ce genre de partie-là. Puis, à date, on va toucher du bois, à date. Il va très, très, très bien. Je l'adore.
Oui, et moi, ce qui m'a surpris, là, c'est l'adhésion du public là, qui vivait ça. Là. C'est vrai qu'il n'y en a pas de vedettes actuellement pour le Rocket, comme quoi, donc, c'est le hockey, c'est l'ambiance. Tu sais, on parle souvent de vedettes. J'entends du monde pleurer sur le fait. Puis, tu sais, je cracherais pas s'il y a un mec David qui débarque en ville. Hey, c'est tout un joueur de hockey pareil, hein, m'en dire. As-tu regardé ça jusqu'à la fin hier soir, Los Angeles, Edmonton?
Jusqu'à la dernière minute, et puis...
Il s'est fait pincer au milieu de la glace alors qu'il n'y avait pas rondelle. On a craint pour une commotion comme c'est arrivé à Crosby, qui est absent du match de ce soir. Ça, c'est bien triste. Mais, il n'y a pas... un contre un, qui tu prendrais, Matthews ou McDavid? À moins que tu en aies un autre en tête. Je ne veux pas négliger Kucherov et un paquet d'autres, là, mais disons que si on pense que McDavid et Matthews et même Dreisaitl sont les meilleurs joueurs actuellement...
Moi, je prends McDavid. C'est ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est plus... Mathieu, c'est un scoreur incroyable. McDavid peut amener beaucoup plus de choses, surtout avec sa rapidité. J'ai rarement vu. J'ai passé 18 ans dans le National. Je me souviens pas d'un meilleur patineur que Connor McDavid. Et quand il dit, là, moi, j'y vais, là. On y va jusqu'au bout, là. Coast to coast, là. Et c'est le meilleur que j'ai vu.
C'est très impressionnant. Qu'est-ce que tu as pensé de Trouba? TVA Sports ont présenté une série sur leur site de documents de collision de Trouba sur des adversaires. Il en a pincé. Il y a toute une liste, lui, dans la carrière de gars qui a fait mal. Bon, je vais pas me servir des actes passés pour dire que là, c'était illégal, mais c'est triste de voir un gars comme Crosby tomber au combat sur une mise en échec comme celle que Trouba lui a donnée, si on peut appeler ça une mise en échec.
Je suis d'accord. C'est très triste. Sauf que j'ai de la misère à condamner Trouba là-dessus. C'est un contact qui est arrivé entre les deux. Un contact qui n'est pas prémédité. Mais, pauvre gars, tu sais, à un moment donné, tu fais un face-à-face avec un joueur. Ta première réaction, c'est de le protéger, c'est de lever le coude. Et puis ça, c'est ça va vite, là. Donc, je crois pas qu'il a voulu blesser Crosby là-dessus. Puis moi, je me fais l'avocat du diable, puis je donne tout le temps le bénéfice du doute. Puis là-dessus, mais écoute, c'est un hockey play, c'était un contact qui est arrivé entre les deux. Puis il a voulu se protéger, ce qui est normal. Et puis malheureusement, ça coûte la présence de
Crosby pour le reste de la série, vraisemblablement, parce qu'il est dans le protocole de commotion. Ben oui.
Mais je peux pas de là dire, gars, Trouba, il y a un historique, puis il a fait avec exprès. Moi, je vois pas ce que là.
Quel match ou quelle série t'a le plus impressionné, Steph? À date, là?
Moi, à date,
t'aimes pas Bay Toronto, c'était pas méchant hier, là?
Oui, c'est la série que j'ai suivie le plus attentivement. Et puis encore là, on a parlé le deux jours en ondes. Toronto, faut qu'il soit capable de survivre à ce fameux blocage-là qu'ils ont de gagner la grosse game. Et puis c'est pas fait encore. Donc c'est certain que c'est dans leur tête. C'est certain, c'est quand même des humains. C'est certain que c'est dans leur tête de gagner la grosse game. Parce qu'ils vont bien. Depuis deux ans, l'année passée, on se rappelle l'année passée encore, 3-1 contre Montréal. Et puis ils ont perdu avec un turnover de Galchenyuk. Puis c'est devenu 3-2, puis après ça, mais ils l'ont échappé. Mais puis ça, ça fait 3-4 ans que ça arrive.
Oui.
Puis à un moment donné, veut, veut pas, tu l'as dans ta tête. Fait que ça m'inquiète pour Toronto.
Ils ont beau dire, ah, c'est du passé, mais là, toutes les questions, toutes
c'est
les
titres... C'est pas vrai, Mario. C'est pas vrai, tu l'as dans ta tête. En quelque part, ça devient psychologique. Jusqu'à temps que cette équipe-là gagne la grosse game.
Et il y en a qui pensent qu'il est trop tard, que c'était hier leur occasion. Là, le 5 contre 3, les arbitres. Tu sais, hier, il était bien parti pour aller chercher. Là, t'as deux punitions en l'espace de 20 secondes. 5 contre 3. Kucherov conclut. Puis c'est vrai que, bon, moi, j'aime pas ça parler d'arbitrage, mais c'est vrai qu'il y avait de quoi. Je sais pas si t'as vu, c'est-tu que Lauren Manning s'est accroché au chandail de Matthews en prolongation pendant 20 secondes en ligne. Là, t'as 4 arbitres sur la glace. Puis personne dit rien, tu sais, c'est comme incroyable, tu sais, ça rappelle la lutte du dimanche matin des belles années, là. L'arbitre qui fait semblant de pas voir, là.
Ouais, la lutte. Mais je pense pas qu'il y ait une conspiration, là, mais en tout cas.
Non, c'est pas ça que je suggère, je dis juste que ça fait que l'arbitrage perd de la crédibilité quand les gars laissent ça passer, puis ils donnent des munitions à ceux qui veulent les planter. Tu sais, écoute, le gars, il est accroché après le chandail pendant 20 secondes, pas une fraction de seconde, là. Il suit dans zone, il est attaché après. C'est comme, bref.
Mais ça, c'est depuis 20 ans, à chaque année, c'est l'arbitrage. Le hockey, là, c'est le sport le plus difficile au monde à arbitrer. C'est tellement... Toutes les cases sont arbitraires.
Mais Steph, qu'est-ce qui est
difficile?
C'est
tellement une question de jugement.
Mais qu'est-ce qui est difficile de donner un 2 à un gars qui se traîne après le chandail de l'autre pendant 20 secondes? C'est clair que c'est une punition. Je veux dire, il n'y a pas photo, là. Je veux dire, c'est sûr que c'est une punition. Fait que ce qui est difficile, c'est de dire, je vais donner un avantage numérique à un club qui ça va peut-être faire la différence dans le match. Mais y a-t-il une punition? Ben oui, il y en a une. Voyons.
Ouais, mais j'ose croire, puis je suis peut-être naïf.
Ils l'ont pas vu.
Que les arbitres pensent pas de même. Puis encore là, je suis peut-être naïf. Mais je vais, pour la première fois de ma vie, je vais penser sur le bord des arbitres. En voulant dire qui essaye d'être le meilleur possible, puis c'est tellement pas facile d'arbitrer, surtout sous pression, dans ces conditions-là. Puis le jeu va tellement vite sur la glace, puis c'est... en ce moment, j'aime penser que nos arbitres au hockey sont les meilleurs arbitres au monde, puis mais c'est un sport tellement difficile à arbitrer. J'aimerais pas ça être dans l'opposition, je peux te dire.
Je te parle de Shane Wright avant qu'on se laisse, Stéphane. On en a discuté cette semaine, t'as dit, pour avoir été aux premières loges de l'arrivée de Patrick Kane, sans comparer Patrick Kane à Shane Wright, mais t'as été là quand Taves est arrivé à Chicago, et t'as vu que d'avoir le premier choix total, ça a permis de vraiment renverser la tendance de la concession des Hawks, c'est ça que tu nous as dit cette semaine. Maxime Lapierre nous disait hier, il faut entourer Shane Wright en arrivant. Pour ceux qui pensent qu'il va jouer dans la Ligue nationale direct en partant, je pense qu'il y a des grosses chances que ça se produise ainsi. Je sais pas comment qu'on a entouré Kane et Taves dans le temps, mais il y en a qui suggèrent même qu'il loge chez un vétéran. C'est quoi que tu fais pour entourer un gars autour de qui tu vas bâtir, tu vas essayer de bâtir ta franchise? Ça veut dire quoi entourer un jeune qui va arriver à Montréal comme ça et qui va...
Totalement d'accord avec Max. Premièrement, là, c'est le genre de gars que tu vas si le gars veut bien, tu vas loger chez Brandon Gallagher. Où ce que Brandon a lui-même été hébergé par Josh Georges il y a beaucoup d'années de ça. Et puis ça a été bon pour sa carrière. Donc, je vois un genre de Brandon Gallagher s'occuper du jeune Shane Wright, si c'est le gars. Puis ça, c'est très important. Puis sur l'Atlas, c'est la même chose. Le coach doit le protéger. Il fallait pas jouer contre les meilleurs joueurs en partant. Donc, ça, c'est important. Essaye de le faire matcher, si c'est possible, contre les troisièmes lignes. Encore là, entouré de bons joueurs. Nous autres, Patrick Kane est entouré de Jonathan Taves, puis son protecteur dans le temps, c'était le gros Dustin Byfuglien, qui pas personne qui pouvait toucher à Patrick Kane. Puis ça, là, ça a été très bon pour l'équipe. Ces deux gars-là, Patrick Kane puis Dustin Byfuglien, étaient devenus les meilleurs amis au monde. Mais Dustin Byfuglien, là, tu touches pas à Patrick Kane. Et puis ça, c'est le genre d'entourage que tu fais. Fait que tu protèges son temps de jeu, contre qui qu'il joue, et puis tu te protèges en étant bien entouré sur la patinoire. et puis tu le protèges à l'extérieur de la glace. Si possible, pas aller jouer, pas aller rester chez un bon vétéran. Puis moi, je vois tellement Brandon Gallagher s'occuper de Shane Wright. Il disait, hey, Shane, viens rester chez nous, et, on va s'occuper de toi. Puis ça serait la, ça, c'est la façon que t'entoures des diamants comme ça.
Ben Steph, un gros merci. On regarde du hockey encore. Je vais regarder si ça a changé avant qu'on se quitte. 2-2 toujours. Alors, un excellent week-end. Je suis convaincu que tu seras aussi bien entouré que Wright à son arrivée le sera. Et pour ta fin de semaine, on se voit bientôt. On se reparle surtout bientôt, Steph. Merci beaucoup.
Bonne fin de semaine. Merci, Mario.
Yes, merci toi aussi. Bonne fin de semaine.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
Revenons au Rocket. Tout à l'heure, je vais vous poser la question. Là, êtes-vous surpris de voir qu'il y a autant de monde qui embarque dans l'aventure éliminatoire du Rocket, que des gens disent « c'est mon club, le Rocket ». Est-ce que ça veut dire, c'est juste temporaire parce que c'est en série, qu'il y a de la place pour autre chose de temps en temps que le Canadien, quand on parle de hockey? Parce que quand on regarde ça, là, depuis quoi? Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de la place pour autre chose en matière de hockey que le Canadien à Montréal? Vous allez me dire, pas juste le hockey, bien d'autres choses, là, puis je suis ouvert à en discuter. Mais tu sais, je pense aux Chevaliers de Longueuil. Je pense, ça fait longtemps, il y a bien des gens à l'écoute que vous, ça vous dit probablement rien. Quand il y avait des vedettes juniors, puis là, on amenait les matchs au Forum pour disputer des séries, puis le Forum était plein. Ça, c'est des moments épiques. Moi, j'étais pas là, j'étais en région, donc on n'avait pas accès. En tout cas, on suivait ça à distance, mais on avait de l'intérêt même en région. Mais les gens de Montréal et autour, eux autres, avaient la possibilité d'y venir facilement. Mais pour parler du Rocket, du match, puis pour avoir suivi les activités d'équipe toute la saison, ben il y a de la perspective pour nous parler de comment ça a connecté aussi. Jasmin Leroux qui est avec nous. Bonsoir, Jasmin.
Salut, Mario. Comment ça va?
Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là avec nous. Jasmin, tu as couvert les activités du Rocket toute la saison, puis j'oserais dire, ça fait quelques saisons que tu les suis de près. Est-ce que tu expliques le fait qu'il y ait autant d'ambiance, que ça soit déjà tout vendu pour demain, tout simplement parce que c'est en série, ou tu as constaté que le Rocket, sans avoir une vedette permanente comme Caulfield, qui est juste venu puis qui ne fait que passer, a vraiment là une base, a vraiment une base de partisans qui s'identifie à ce club-là?
Ben, moi, je te répondrais que je suis pas d'accord avec le fait que c'est seulement parce que c'est en série. Je vais commencer comme ça. Le Rocket s'est bâti une base de partisans depuis quelques années, puis c'est la cinquième saison là, du Rocket à Laval, et on le voit vraiment qu'il y a un engouement qui est grandissant. Depuis deux saisons, ça a été pas facile. L'année dernière, on a joué tous nos matchs au Centre Bell, on s'en rappelle, avec zéro partisan. C'était une ambiance de salon mortuaire au Centre Bell toute l'année. L'an dernier. Là, cette année, on a retrouvé les partisans. Malgré tout, il y a eu des séquences qui étaient pas faciles parce que, je me rappelle, au début du mois de mars, on a joué quelque chose comme 7 matchs en 11 jours à la Place Belle. Alors, je me souviens qu'on en parlait entre nous, le membre des médias, les gens avec l'équipe, puis on avait des interrogations à se dire, est-ce que 7 matchs en 11 jours, des matchs le lundi soir puis le mercredi soir, oui, c'était la semaine de relâche, mais quand même, on se demandait s'il allait avoir de l'engouement et les partisans ont répondu présent. Il y avait beaucoup de monde à la Place Belle, sans que ce soit des salles combles, évidemment, mais il y avait quand même un bel de belles foules qui étaient là. Alors là, on s'est dit que vraiment, il y avait quelque chose qui était en train de se construire avec le Rocket de Laval. Je pense que le Rocket a fait aussi un excellent travail, Mario, dans la dernière année aussi, pour aller chercher beaucoup de gars d'ici, beaucoup de Québécois. Ça a été un peu un mot d'ordre. Peut-être pas autant que les Lions de Trois-Rivières, qui avaient une équipe à 98% francophone, mais même avec le Rocket, on est allé en chercher dans les derniers mois. Puis je pense que ça l'a aidé aussi à créer un lien. Forcément, des fois, tu sais, t'as pas nécessairement une vedette à regarder, mais au moins t'as des gars du Québec que t'as connus dans d'autres marchés au niveau du hockey junior majeur. Alors oui, je pense que ça a vraiment créé une belle base de partisans. Puis je suis pas surpris de voir ça en série, honnêtement. On a donné le ton, Mario, dans les derniers matchs de la saison. Les deux derniers matchs de la saison régulière à domicile, c'était sale comble ou tout près là, à la Place Belle. Alors, ça donnait une bonne indication qu'en série, on allait réussir à le faire aussi, là, de remplir la Place Belle.
Je me demandais, puis je pense qu'ils vont jouer toutes les séries à la Place Belle, puis on verra jusqu'où ils vont aller. Mais je me posais juste la question pour fin de conversation. Combien de monde il aurait pu accueillir dans un amphithéâtre à 20 000 personnes?
J'en ai aucune idée, honnêtement. Il y a quelqu'un du fait du marketing du Rocket qui pourrait te répondre. Je pense que la question, ça serait à quel moment vous avez eu une salle comble? Est-ce que vous étiez salle comble seulement quelques heures avant le match, qui donnerait l'impression que on était pas mal allé au maximum de la capacité, ou est-ce que vous étiez sur le comble déjà depuis plusieurs heures, quelques jours, tu sais? Et là, on parle de demain, du match de demain qui est déjà sale comble. Alors là, ça donne l'indication là, que peut-être que si on avait eu plus de place, on aurait pu en mettre encore plus que ça. Mais j'ai l'impression que ben écoute, tu sais, je te dis ça, puis j'ai aucune information de rien du tout, mais j'ai l'impression qu'on va être à la place belle jusqu'à la fin. Là.
Oui, moi aussi. C'est leur domicile. Et c'était pas ma suggestion. Il y a des gens qui me le demandent, est-ce que ça va arriver, mais c'était pas pour ça, mais c'était juste pour voir, parce que tu sais, comme je le disais, on a déjà vu le forum rempli dans le temps pour des gros matchs de séries juniors à l'époque, mais il y a pas de Cole Caulfield chez le Rocket actuellement, et ça, c'est une question que beaucoup de monde me pose et se pose, et je te la pose, Jasmin. Donc, je reviens, bon, oui, des efforts de promotion, tu sais, c'est bien mené, l'organisation a bien travaillé, beaucoup de Québécois. Ben, peut-être que toutes les réponses sont là, puis j'ai pas besoin de gratter davantage, mais as-tu une autre explication au fait que... Parce que, tu sais, les gens disent toujours l'Impact, ça prend une vedette, le Canadien, ça prend une vedette, ça prend toujours une vedette, puis ben là, il a peut-être des vedettes dans l'œil de ceux qui regardent, puis qui les voient comme des vedettes, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a pas de superstar dans la Ligue américaine. Fait comment t'expliques ça?
Ben, tu sais, il n'y en aura jamais de superstars dans la Ligue américaine. Puis s'il y en a, habituellement, ils sont pas là longtemps. C'est rare, les superstars qui sont là toute la saison. Il y en a eu, là, tu sais, je pense aux Americans de Rochester cette saison. Ils ont eu Jack Quinn, qui était le 8e choix au total des Sabres l'année précédente, qui a passé presque toute l'année avec Rochester. Mais relativement, là, c'est rare que ça arrive. La plupart du temps, quand t'es vraiment bon, ben, tu restes pas trop longtemps. Ceci étant dit, pour te répondre, je pense que les gens se sont attachés à des gars qui ont travaillé fort. Moi, honnêtement, je les ai tous vus, les matchs là, à la Place Belle cette saison. On était là pour les couvertures avec RDS. On en a fait quelques-uns là, depuis RDS sur le web. On les a tous fait, les matchs. Puis, honnêtement, là, je peux pas dire que c'est pas arrivé, mais c'est pas arrivé souvent des matchs là, que tu as l'impression que le Rocket s'était pas présenté. À chacun des matchs, gagne ou perd, puis souvent à domicile, le Rocket a eu une excellente fiche, c'est-à-dire qu'à domicile, on gagnait des matchs, puis ça, c'est toujours un bon truc, comme on dit, pour ramener les gens la prochaine fois, là. Mais de manière générale, même si on avait une défaite, on a joué d'excellents matchs. Alors, je pense que ça l'a aidé assurément aussi. Puis comme tu le dis, t'as peut-être pas une vedette, tu regardes l'alignement, puis tu dis, bon, OK, tu sais, t'amènes quelqu'un qui est pas initié nécessairement, puis tu peux pas lui dire, hey, regarde absolument tel numéro, là, c'est lui le gros joueur, il y en a peut-être pas comme ça, mais t'as trois bons trios à l'attaque, puis deux, trois bonnes paires de défense, deux gardiens qui ont fait un bon travail cette année, chacun a eu son histoire, Kevin Poulin, puis Kevin Primo, les deux ont eu leur histoire, puis ont eu des bons moments. Alors, je pense qu'on s'est attaché au groupe beaucoup, puis comme je te le dis, il y a beaucoup de Québécois aussi. Je regarde, tu sais, Alex Belzile a trois buts depuis le début de la série contre le Crush de Syracuse. Jean-Sébastien D a marqué. Tu sais, hier, il y a eu quatre buts pour le Rocket. Trois des quatre, c'est des Québécois. Alors, tu sais, ça aide aussi là, à avoir de beaux moments puis de beaux souvenirs aussi d'un match. Raphaël Harvey-Pinard, Jean-Sébastien D, ça a été le meilleur duo du Rocket cette saison en attaque. Il n'y a aucun doute, ça a été les deux plus constants. Alors, je pense que ça a été un facteur d'ensemble. J'aimerais ça te répondre, hey, écoute, c'est absolument ce facteur-là. Mais c'est
non,
pas ça.
C'est pas évident, c'est l'ensemble. Ouais. Puis un désir aussi de voir donc du hockey à ce moment-ci de l'année, sans aucun doute. Mais en quelques secondes, mais c'est vrai que c'est la COVID. Fait que il y avait-tu des basses des faibles foules par moment ou il y a toujours eu un plancher quand même pas pire?
Non, il y a eu un plancher tout le temps pas pire, honnêtement. Là, j'ai pas les chiffres d'assistance devant moi, mais je me souviens pas d'un soir qu'on s'est dit hey, Colin, c'est pas mal à soir, ça c'est pas arrivé vraiment.
Okay.
Il y a des soirs qui étaient moins remplis que d'autres, là, mais c'était quand même très bien tout au long de la saison.
Mais Jasmin, un gros merci. Et tant qu'à t'avoir là, puis je sais qu'on va parler au paternel un petit peu plus tard ce soir, mais comme le match avait lieu dans les Maritimes, je souligne en ta présence que le Titan d'Acadie Batters t'a complété sa remontée et éliminé les Moussets d'Halifax par une victoire de 2-1 ce soir. Oui, c'est passé proche, certain, mais victoire donc
on n'arrêtait pas d'identifier Charlottetown, Batters et Saint John comme les trois équipes dans les Maritimes à battre. Et là, on est passé proche d'en avoir deux sur trois qui étaient éliminés dès la première ronde parce que Saint John a été éliminé. Alors là, Batters a sauvé, comme on dit, là, puis va poursuivre son parcours et va éventuellement rencontrer Charlottetown, peut-être en demi-finale, là. Mais oui, ça a été un sauvetage. Moi, Mario, me permets-tu deux secondes de te dire que la Coupe TELUS commence la semaine prochaine avec les cantonniers de Magog. On va suivre ça. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé, mais la Coupe TELUS commence lundi pour les cantonniers de Magog. On va suivre ça tous les soirs. Et la Ligue de baseball junior élite du Québec aussi, on était en conférence de presse cette semaine. Ça commence demain, les matchs. Puis lundi, on va commencer à se parler de baseball junior aussi. Alors, je vais recommencer à t'appeler en fin de soirée. Là, je m'ennuyais de toi. Là.
Ben moi aussi, on garde toujours ta place, Jasmin. Puis gars, on s'ennuyait. Fait que merci d'être venu en renfort à l'émission ce soir. Merci beaucoup, Jasmin.
Ça me fait plaisir. Demain, 15h, le Rocket a une chance d'aller en deuxième ronde.
Parfait. Contre le Crunch à la Place Belle.
curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
Le CF Montréal a déjà 10 matchs derrière la cravate, une récolte de 17 points à la suite de 5 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Ils affrontent demain un club tout à fait prenable, bien sûr, c'est un club d'expansion, sauf que, quand vous regardez ça attentivement, on constate que ce club d'expansion a déjà 4 victoires au compteur. Alors, qu'en pense Vandril Lefebvre, qu'on rejoint à l'instant? Bonsoir Vandril.
Salut Mario.
Est-ce que c'est le piège à ours gros, tu sais, comme tellement évident là, qu'on va tomber dedans parce que ça semble très, ben, pas facile, mais un match prenable pour l'Impact sur la route ou de l'ECF, pardon?
Ben écoute, je regardais ça aujourd'hui pour voir un peu en détail. C'est vrai que c'est une équipe d'expansion. Toujours les équipes d'expansion, c'est le point d'interrogation. On sait jamais dans quelle dynamique ils ont abordé la saison. Est-ce que l'effectif, la chimie s'installe rapidement? Puis regarde ce qui est intéressant. Tu parles de 4 victoires, Mario. Les 4 victoires sont survenues dans leurs 4 derniers matchs à domicile. Oh. Fait que, tu sais, le piège, il est quand même tendu devant la route du CF Montréal parce que ça n'est pas facile gagner un match au domicile de Charlotte, surtout dans la dynamique dans laquelle ils sont actuellement.
Et à quoi tu t'attends du côté du CF? Surtout que là, quand je dis à quoi tu t'attends, parce que dirais-tu qu'on a tout à coup plus d'attentes?
Oui. Alors, tu sais, les résultats, tout le monde sait un petit peu qui suit la MLS depuis des années que voyager, c'est difficile. Voyager à l'échelle de l'Amérique du Nord dans les conditions, surtout quand il commence à faire chaud, c'est jamais évident. Donc, je pense que tout le monde le sait ça. Maintenant, il y a des attentes dans le... Donc là, je fais la différence entre le contenu et le résultat. Le résultat, tu sais, aller chercher un point sur la route en MLS, franchement, c'est déjà une performance. Le contenu, moi, ce que je veux voir, puis c'était la discussion de la dernière fois entre nous, Mario également... Le CF Montréal, c'est une équipe qu'on sait chaque fois qu'elle rentre sur le terrain, elle a cette identité de jeu, possession du ballon, asseoir sa domination et contrôler le jeu. Moi, ce que je veux voir du CF Montréal maintenant, même à l'étranger, c'est la capacité match après match à répéter cette domination-là. Après, le résultat, c'est des fois tu vas en gagner, des fois tu vas en perdre. Les circonstances de jeu auront de l'influence là-dessus. Mais être capable pour le CF Montréal de contrôler le jeu même à l'extérieur, je pense que c'est ça le défi.
Et est-ce que Charlotte ont misé sur le développement ou ils ont fait des acquisitions des gars d'une certaine expérience pour leur donner un peu de tonus à leur première année dans la MLS, Vandril?
Non, ils ont un joueur désigné, c'est un attaquant polonais, je pense, de mémoire, Zwerski s'appelle, Karozowski, il est pas mal du tout, il a déjà 4 buts au compteur, a mis un peu de temps à se mettre en route et non, c'est un bon jeune joueur, attaquant, gaucher, 25 ans. Donc, ils sont allés se renforcer en allant chercher les fameux joueurs désignés qui commencent à être un peu plus populaires dans cette nouvelle génération de la MLS, c'est-à-dire des joueurs désignés qui n'ont plus 30 ans et plus nécessairement, qui sont plus mi-vingtaine, qui ont un certain statut, mais qui ont surtout un potentiel de continuer à progresser. Puis c'est son cas à lui, et il a l'air de bien s'intégrer. Il coûte 4 buts dans une équipe d'expansion, dans une dizaine de matchs. C'est quand même pas mal.
Le calendrier a été quand même assez clément avec le CF récemment. Là, on a eu du repos entre les matchs. Ça va changer. À quoi tu t'attends comme l'utilisation du personnel? Il y a quand même des options beaucoup plus que, si on retourne dans le passé, beaucoup plus qu'il n'y a pas si longtemps que ça, là. Puis il y a pas mal de positions sans non plus être au-dessus de ses affaires, là, Vandril, mais notamment en milieu de terrain. On a vu la semaine passée le travail fait par des Chouanières ou des Samuel Piette et en attaque aussi, là. On a quand même, il y a des gars qui se sont, je dirais pas éveillés, mais qui se sont manifestés davantage sans être les joueurs clés de l'attaque des Lapalainen. On a vu plusieurs percées. Kyoto qui demeure Kyoto. Il y a Mihailovic, évidemment, qui est peut-être le gars le plus constant. Donc, l'utilisation du personnel, puis aller chercher. Est-ce que tu penses que on y va pour le 3 points demain ou on y va pour un petit point, puis on est satisfait?
Non, écoute, je pense que pour répondre à ta question sur l'ambition à l'approche de ce match, on y va pour 3 points. Je pense pas, connaissant Wilfried Nancy, en plus, dans la dynamique dans laquelle se trouve le CF Montréal, on n'y va pas, on n'a pas cette ambition-là d'être conservateur. On joue, on veut gagner les matchs. Après, les circonstances de match peuvent t'amener à te dire qu'éventuellement prendre un point, si jamais t'es fragilisé, t'encaisses rapidement et t'arrives à revenir de l'arrière, tu peux sortir d'un match et te dire, bah, finalement, je m'en sors pas trop mal avec un point. À l'heure actuelle, le match n'est pas commencé. Moi, je te l'annonce, il n'y a pas de problème. On vient demain pour prendre les trois points. C'est sûr et certain. Maintenant, tu parlais de la profondeur. C'est là qui est intéressant. Moi, juste avant, je faisais référence au qu'est-ce qui compose la force de cette équipe. C'est son ambition balle au pied, sa capacité à mettre le pied sur le ballon. Puis le deuxième élément clé qui fait l'identité de cette équipe, c'est la profondeur. Et la force de cette équipe, c'est la profondeur. Tu as une homogénéité entre les joueurs qui jouent régulièrement et ceux qui jouent peut-être moins et qui peuvent bousculer la hiérarchie à n'importe quel moment. Et là où ça va même plus loin dans le cas du CF Montréal, c'est que c'est des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. Je vais te donner un exemple super concret. Un joueur local, Mathieu Chouanière. Mathieu Chouanière, là, c'est un joueur qui, à la base, a signé il y a 4-5 ans.
Comme défenseur.
Au CF Montréal. Non, il a même signé comme milieu de terrain plutôt offensif.
Okay.
Depuis quelques années, en fonction du style de jeu et des opportunités, il s'est établi et a commencé à faire sa marque comme défenseur latéral dans un système à 3 ou à 5, dépendamment comment on le voit, mais latéral. Et la semaine dernière, il a joué où, Mathieu Chouanière? Il a joué au milieu de terrain aux côtés de Samuel Piette. C'est un joueur polyvalent qui a des habiletés offensives, qui est capable d'être intelligent et de gérer le tempo d'un match et également de gérer des duels pour les gagner défensivement. C'est là où ça devient intéressant, puisque je te dis, à l'échelle de Mathieu Chouanière, Alistair Johnston, c'est un joueur qui peut jouer latéral dans le système à 3, latéral dans le système à 4, qui peut même jouer central dans un système à 3. Et tu as une coupe de joueurs comme ça qui peuvent évoluer à différentes positions. Ça fait la force de cette équipe parce qu'elle est composée d'une homogénéité marquée avec des joueurs polyvalents.
Alors, on surveille ça demain, bien sûr. Le match est en après-midi sur la route à Charlotte, en Caroline. Merci beaucoup, Vandril, d'avoir passé un bout de ton vendredi soir avec nous. Je te souhaite un excellent week-end.
Avec grand plaisir, Mario. Merci.
Merci. Bye-bye. À bientôt. Bye-bye.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.